C'est dans l'art, le magazine d'actualité culturelle de Radio Campus Paris.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à vous qui écoutez C'est dans l'art, le magazine d'actualité culturelle de Radio Campus Paris. Vous venez d'entrer dans une heure dédiée aux 10 grands arts de l'humanité, avec un focus de ce qui se fait pour chacun d'entre eux dans la région de Paris. Avez-vous soif de découvertes, de réflexions ou de sensations? Et si oui, comment combler ces envies? Par l'art, bien sûr. Et pourtant, je me suis demandé si ce n'est pas par l'art, ce serait par quoi? Qu'est-ce qui n'est pas art? J'ai cherché, j'ai fouillé, je n'ai rien trouvé. L'art est partout. Dans nos réalités, comme dans notre imaginaire, dans nos formes d'expression, aussi bien que dans nos silences, dans nos mouvances et dans nos absences. C'est ça, l'art est partout. Alors si vous êtes curieuse, curieux, vous trouverez toujours de quoi alimenter vos réflexions, vos pensées, vos émotions. Voilà ce que nous tentons de mettre en lumière dans C'est dans l'art. De nouvelles idées, de nouvelles créations, pour que vous trouviez votre prochaine découverte, selon vos envies, et il y a toujours de quoi faire. Chères auditrices, chers auditeurs, que vous soyez déjà fidèles à notre émission de culture ou tout simplement curieux de savoir ce qu'il se fait, ce qu'il se dit, ce qu'il se crée, vous êtes au bon endroit. Vous écoutez C'est dans l'art, l'émission d'actualité culturelle qui explore ce qui se fait dans le Grand Paris, et c'est sur Radio Campus Paris. Et on démarre cette heure maintenant. De quoi parlons-nous dans C'est dans l'art ce soir? On danse au rythme de l'exposition Disco I'm Coming Out, on fait un focus sur ces stars des années 2000 qui font leur retour, on se questionne sur nos amours et nos dépendances avec la littérature, on découvre Ethan Lalouse, jeune humoriste émergent, et enfin, on se plonge dans des lieux où la nature reprend ses droits pour ce qui est de l'architecture. Encore de quoi s'inspirer dans tous les arts. C'est dans l'art, c'est sur le 93.9 FM en Ile-de-France, sur le canal Campus en DAB+, et partout et tout le temps sur Radio Campus Paris. Amis curieux, amis curieux, c'est parti pour une heure artistique.
C'est dans l'art, un dimanche sur quatre sur Radio Campus Paris.
Et pour m'accompagner ce soir, j'ai avec moi autour de la table du studio direct de Radio Campus Paris, Diane.
Bonjour.
Ryan.
Salut.
Garance.
Salut.
Safia.
Bonjour.
Et Jeanne.
Bonsoir.
Prêtes et prêts avec leur chronique. À la technique dans la régie de Radio Campus Paris, il y a Eléa et je suis Léa pour vous accompagner une fois de plus au fil des sujets du jour. Salut tout le monde, merci d'être là ce soir, j'ai hâte d'entendre vos chroniques, alors commençons sans plus attendre. C'est parti.
Sur Radio Campus Paris.
Et on commence cette émission par le tour d'actualité générale avec Jeanne qui nous a fait une sélection. Qu'est-ce qui se passe en ce moment?
Allez, pour commencer, deux recommandations d'expos à voir en ce mois de juin. La première, c'est Banlieue Chérie au Palais de la Porte Dorée, une immersion artistique au cœur de l'histoire des banlieues et de leur richesse sociale et culturelle. Bien loin de tous les clichés, c'est à voir jusqu'au 17 août. Et puis direction la Maison Européenne de la Photographie avec l'expo consacrée au travail de Marie-Laure de Decker, grande figure du photojournalisme du XXe siècle qui a su s'imposer dans un milieu très masculin avec son approche pleine d'humanité, d'intimité dans la façon de donner à voir la violence des conflits, c'est à voir... J'ai pas écrit la date dans mon... Non, voilà, c'est pas grave. Quelques mots de littérature avec l'histoire d'un véritable phénomène littéraire de ces derniers mois. L'autrice américaine Freda McFadden rencontre un succès ahurissant avec sa série de romans La femme de ménage. Alors que la parution du dernier tome intitulé Le mariage de la femme de ménage était annoncée pour le mois de mai, on comptait entre le 14 et le 20 avril dernier que près de 52% des livres vendus en France étaient signés de l'autrice. C'est énorme. Ses autres romans, La psy, La prof, caracolent en tête de vente depuis des mois, poussés par un bouche à oreille ultra efficace sur les réseaux sociaux, notamment auprès des lecteurs, des non-lecteurs qui se prennent au jeu. Sur scène, au mois de juin, c'est la fin de l'année et qui dit fin d'année dit kermesse. C'est la proposition singulière du collectif La Cabale présentée au Théâtre 13 et qui propose d'interroger notre rapport à la honte et au ridicule en prenant pour point de départ la tradition festive de la chenille qui redémarre et en se demandant si cette danse pourrait porter l'espoir d'une grande union nationale. Vaste question, c'est à voir jusqu'au 21 juin à partir de 5 euros. Et en ce... Non, pardon, excusez-moi. Et en ce mois des fiertés, du côté de la colline, allez découvrir la nouvelle création de Virginie Despentes, romancière au queer, qui nous invite à célébrer nos résistances, nos fragilités et la joie d'être soi-même. Je crois que ça se remplit très vite, mais ça se joue jusqu'au 29 juin. Au cinéma, profitez à partir du 11 juin de la reprise à Paris de l'édition tout juste terminée de la quinzaine des cinéastes du Festival de Cannes. La quinzaine, c'est une sélection parallèle à la compétition indépendante qui entend, je cite, « faire découvrir les écritures cinématographiques les plus singulières du cinéma contemporain », une occasion de découvrir ces films dont beaucoup n'ont encore pas de date de sortie dans les quatre cinémas partenaires de cette reprise à Paris, le Forum des Images, MK de Beaubourg, le Reflet Médicis et le Luxor. Qu'est-ce qu'on écoute ce mois-ci? Parmi les quelques dernières sorties remarquées, citons Théodora qui s'impose avec Mega BBL comme une des voix incontournables de la scène afropop. Écoutons l'électro mélancolique de Léonie Pernet dans l'album Poèmes pulvérisés, ou encore la voix envoûtante d'Awali dans Essence and Elements, un nouvel album hautement mystique et spirituel. Les jeux vidéo incitent-ils à la violence? Éternelle question posée par des générations de parents inquiets, à laquelle Arte apporte une réponse glaçante avec le documentaire De la manette à la gâchette, qui explore comment les jeux vidéo peuvent devenir des espaces de radicalisation. On y apprend que des mini-jeux reproduisant des tueries de masse sont facilement accessibles sur des plateformes populaires telles que Roblox, et que les lacunes en matière de modération créent un environnement propice à l'influence des plus vulnérables, c'est à voir sur arte.tv. Et je termine avec un très bon plan, plutôt méconnu pour nos auditoristes entre 18 et 25 ans, c'est le Pass Jeune, qui est disponible chaque été gratuitement sous la forme d'un petit livret de coupons de réduction et de places gratuites pour de très nombreux événements tout l'été à Paris et autour. De la culture, du sport, des activités variées sont proposées. Inscrivez-vous sur passjeune.paris.fr pour réserver le vôtre.
Merci Jeanne pour ce point actu, il y a beaucoup à découvrir. Plongeons dans les sujets du jour sans plus attendre.
Architecture,
sculpture,
musique,
c'est dans l'art sur Radio Campus Paris.
Et pour commencer, parlons art visuel avec Safia. Tu nous emmènes dans une expo qui se déroule au rythme de la musique.
Alors oui, jeudi, je suis allée voir l'exposition Disco I'm Coming Out à la Philharmonie de Paris. Alors certes, un jour férié, mais tout de même, j'ai été surprise par le nombre de visiteurs, des familles, des couples, des nostalgiques, c'était festif et même dansant. La bande-son de l'expo, dont vous avez pu déjà entendre un petit extrait, est mixée par Dimitri from Paris. La Philharmonie donne à voir une compilation d'archives, aussi bien audiovisuelles, photographiques. On y trouve des objets de design, des costumes, le tout dans une atmosphère immersive. Le disco n'est pas qu'une musique de danse, c'est là tout l'enjeu de cette exposition, retracer l'épopée du disco. Le disco émerge en tant que réponse à la domination de la scène rock de l'époque dans les années 60. Il est le résultat d'un mélange de funk, soul et pop, le tout enrichi par une orchestration électronique. Sont d'ailleurs exposés des synthétiseurs, un clavier Fender de 1973 ou encore une guitare signée par Nils Rodgers. Le disco est le terreau de nombreuses innovations comme l'invention du mix, du remix, du maxi 45 tours. Il a contribué à l'évolution des techniques d'amplification ou encore de spatialisation. Popularisé à jamais par celles que l'on nomme les divas du disco, telles que Donna Summer ou Diana Ross, dont d'ailleurs on peut admirer l'affiche promotionnelle réalisée par Andy Warhol à l'occasion de la sortie de l'album Silk Electric, ces chanteuses ont un rôle essentiel dans la popularisation de ce genre musical. Elles ont laissé une empreinte durable dans l'industrie de la musique en dominant les classements. C'est une musique ancrée dans l'histoire et la culture afro-américaine, dans une période de célébration noire, Black is Beautiful. Des photos de Kwame Brathwaite célébrant le port du cheveu naturel sont d'ailleurs visibles, ainsi que des affiches militantes réalisées par l'artiste activiste Thet Ringgold. Le disco est un manifeste pour les droits civiques, la liberté des corps et l'émancipation des communautés marginalisées. On pense à des titres tels que « I Will Survive » de Gloria Gaynor qui est hautement politique. Et c'est cet aspect qui est mis en avant dans le choix de l'intitulé de l'expo « Disco, I'm coming out ». Le contexte aux US est marqué par la guerre du Vietnam, l'assassinat de Malcolm X ou encore les émeutes dites de Stonewall. La loi interdit la pratique du travestissement, de la sodomie ou encore la danse entre personnes de même sexe est prohibée. C'est donc tout naturellement que ce genre musical est célébré par la communauté gay. Le disco est underground, il faut se rendre dans des clubs LGBT tenus par la mafia italo-américaine pour communier sur la piste de danse. On y danse le hustle, le bump, l'electric side ou encore le robot, la danse individuelle suppléant définitivement les danses de couple. Safe place où les danseurs peuvent entrer dans un état de transe et d'abandon, des moments cathartiques et nécessaires pour des habitants de quartiers souvent désœuvrés. Ces ambiances capturées par les objectifs de Michael Abramson ou Meryl Messler sont visibles à la Philharmonie. S'agissant de la mode disco, extravagance, liberté stylistique était à son apogée. Sont d'ailleurs exposés des costumes synonymes d'audace et reflétant l'esprit festif. Période de libération sexuelle, le disco est vite associé à la promiscuité sexuelle, à l'usage de la drogue et en général à l'hédonisme. Le succès planétaire du film Saturday Night Fever de John Badham en 1977, dont la BO est celle des Bee Gees, a déclenché une vague disco mondiale. Elle participe aussi à l'édulcoration du disco et à sa réappropriation par le patriarcat. Fin des années 70, début 80, c'est le début de la fin. Le marché américain est inondé de musique disco. Des slogans tels que « Disco sax » ou « Death to disco » se font de plus en plus entendre. Le point de rupture s'est déroulé le 12 juillet 1979 lors de la tristement célèbre Disco Demolition Night, un événement promotionnel au stade de Comiskey Park à Chicago. Dans le cadre d'un double match, une caisse remplie de disques de musique disco est détruite à l'aide d'explosifs au milieu du stade. Le terrain est dévasté par l'explosion puis par l'irruption du public. À l'étranger, en Europe et en France, le disco continue à faire danser récemment des artistes tels que Madonna, Daft Punk, Breakbot ou Dua Lipa ont rendu hommage à ce mouvement.
Le disco, ce phénomène planétaire et imminemment politique qui aura toujours le pouvoir de nous faire bouger. Merci Safia. Allez, passons aux réactions. Le disco, on en pense quoi, Diane?
C'est marrant parce que moi, ça me fait penser que la danse, pour moi, c'est un vrai moment de lâcher prise. Je danse depuis cet été les danses latines, la salsa, la bachata et la keys, tous les dimanches soirs, à côté de chez moi. Et vraiment, c'est un moment pour moi de lâcher prise. Et en plus, juste avant de débuter la semaine, donc c'est un moment où j'enlève un peu les pensées négatives de mon cerveau. Et même quand je danse chez moi, toute seule, c'est un moyen de revenir un peu... à l'essence de ce que je traverse, mes pensées, etc. C'est un moyen de déconnecter un peu, ouais.
La musique et puis par extension, du coup, la danse provoque beaucoup de choses à la fois dans le corps et dans l'esprit. Jeanne, qu'est-ce que ça t'évoque, ce sujet ?
Revenir à l'exposition, justement, j'ai l'impression que beaucoup de gens, moi j'y suis pas allée, j'ai pas encore eu cette chance, mais beaucoup de gens qui y sont allés ont été justement surpris par toute l'histoire sociale et politique qu'il y avait derrière cette musique, qu'on associe très naturellement à aux paillettes et aux pantalons pas de def et aux cheveux comme ça. Enfin, on voit pas parce que c'est la radio. Mais du coup, je trouve ça hyper intéressant. En plus que la Philharmonie, qui est cet endroit très institutionnel, très associé à la musique classique aussi, s'empare de ce genre de sujet fasse venir un public comme ça qui peut être intéressé par des musiques différentes et derrière avoir cette nouvelle façon de voir ce type de musique.
Garance, le lien à la politique, la revendication par la musique.
Justement, je trouve ça hyper intéressant parce que moi, dans mon imaginaire, la disco, ça a toujours été associé à quelque chose de ringard ou d'un peu dépassé. Et du coup, moi, j'ai toujours adoré le disco et danser dessus. Mais c'était un truc un peu second degré où il y avait toujours se cacher un peu derrière ça. Et donc je trouve ça hyper intéressant qu'on se soit remis comme ça sur le devant de la scène et d'émotion plus activiste.
Ryan.
J'ai très envie de voir l'expo. C'est vrai que derrière la boule à facettes, derrière la danse, il y a vraiment une histoire politique pour les Afro-Américains, les personnes LGBT+, et une histoire qu'on connaît peu. Et en fait, c'est important de connaître l'histoire des musiques qu'on écoute et ce qu'il y a derrière. Donc moi, j'ai très envie de la voir. Et je suis content que la Philharmonie, d'ailleurs, qui a fait une expo sur le métal il n'y a pas si longtemps que ça, décide de s'ouvrir à d'autres styles de musique et de raconter leurs histoires. Je trouve ça super. Donc moi, tu m'as convaincu.
Je l'ai trouvé assez fort à la Philharmonie parce qu'ils partent d'un sujet qui est très musical, donc immatériel, et ils arrivent à mettre en scène des choses qu'on ne voit pas théoriquement, et je trouve ça très très bien fait, notamment pour le métal, c'était vraiment hyper immersif avec plein d'objets aussi, etc. Et je sais pas si c'est la même chose pour le disco, mais je trouve qu'ils sont assez forts là-dessus.
Safia, toi, quand tu y es allée, qu'est-ce que t'es ressortie avec quoi de cette exposition?
Mais j'ai trouvé que c'était un très bel hommage, et donc ça, c'est important. Et effectivement, ce n'est pas que des boules à facettes et des costumes.
Qui brille.
Et puis il y a quelque chose d'incroyable dans le fait de, ce rythme-là qui est quand même très basique et on peut y rester des heures et des heures. Et j'ai l'impression que c'est la techno qui a un peu pris la suite de la disco, mais en laissant de côté la dimension peut-être un peu démarginalisée justement. C'est devenu très mainstream.
Merci pour vos réponses. L'exposition Disco I'm Coming Out, c'est à la Philharmonie de Paris dans le 19e arrondissement jusqu'au 17 août prochain. Laissez-vous entraîner dans ces rythmes.
Art visuel, art médiatique, art de la scène. C'est dans l'art sur Radio Campus Paris.
Continuons notre heure culturelle avec la littérature. Garance, on se plonge avec toi dans Dramadol de Rose Vidal. Dis-nous en plus. Fuck the pain away. Fuck the pain away. Fuck the pain away. Oh, what?
l'aurez compris, c'était Fuck the Pain Away de Peaches. Et de douleur, il en est précisément question dans Dramadol, le premier livre de Rose Vidal paru en mars dernier chez Gallimard dans la toute nouvelle collection Aventure. Dramadol, c'est d'abord une enquête sur la douleur. Qu'est-ce que la souffrance? De quelle matière est faite notre souffrance? Mais c'est aussi un objet formellement non identifié, une réflexion qui avance en boucle et de biais, qui cherche sa forme, et c'est ce qui m'a beaucoup intéressée.
Pourquoi choisir comme sous-titre « Roman sans histoire » Ça veut dire quoi, au juste?
Je dirais qu'au lieu d'être une histoire linéaire classique avec des personnages, c'est plutôt le récit d'une pensée qui se cherche et dans lequel l'autrice devient le sujet d'une autothéorie à la manière de Maggie Nelson. Le livre est fait de réflexions et de confessions. Il avance d'histoire en histoire qui s'entremêlent pour former la matière de la douleur chronique au chagrin d'amour, du deuil à l'addiction et à la fatigue, celle d'une génération, mais aussi une réflexion sur nos manières contemporaines d'aimer. La narratrice pose des questions, cherche l'étymologie des mots, en invente, veut comprendre à travers les histoires qu'on lui raconte, des personnes qui l'entourent. La réflexion devient de plus en plus ample au fil des pages, ponctuée par des textos, des photos, des captures d'écran, des poèmes, des mots en gras, des phrases barrées, et une écriture inclusive particulièrement subtile et soignée. Avec comme point de départ un constat, tout le monde connaît la douleur, et pourtant, c'est aussi l'expérience d'une solitude radicale. La douleur est impartageable. Si je vous dis par exemple que j'ai mal au ventre parce que j'ai mes règles, vous êtes capable de vous imaginer ma douleur, mais vous ne pouvez pas la ressentir, en faire l'expérience. Et même si vous avez vos règles au même moment, ça ne sera jamais la même expérience, la même douleur. Où est donc la souffrance? Dans le bleu, dans la tête, sur ta peau? La douleur, elle ne se voit pas, elle se ressent. Même l'imagerie médicale ne montre pas la douleur. On évalue la douleur, on quantifie la douleur, on la localise. Mais reste que ma douleur, ma souffrance, personne ne la ressent. D'ailleurs, si tu n'as pas de traces, ça pourrait être une fiction. On pourrait t'accuser d'en faire trop, d'être une drama queen, d'en faire toute une histoire, ou alors d'être hystérique, au hasard. On ne peut pas partager une douleur, c'est ton secret que personne ne pourra vraiment comprendre, car la souffrance est invisible. Plus qu'une enquête sur ce qu'est la douleur, ce sont les mots pour dire la douleur que cherche Rose Vidal. Car la douleur a cette caractéristique si particulière de n'avoir que les mots pour exister, à travers les récits qu'on en fait. De voix en voix, de discussions intimes entre amis, de médecins en spécialistes, tout au long du livre, on chemine d'histoires racontées en confidence, les mots tâtonnent et tentent de trouver la forme, l'image qui échappe et se dérobe. La souffrance est donc ce qu'on n'arrive pas à dire, à nommer, dont on se rend compte plus tard et qu'il faut alors raconter, re-raconter, par analogie, par des détours. La douleur nous enseigne le monde en même temps qu'il nous enseigne le corps.
Et le titre dans tout ça?
Le titre Dramadol parle du tramadol, qui est un antidouleur, donc de l'adduction aux opioïdes sur laquelle Rose Vidal a travaillé à partir d'œuvres d'art avant d'écrire Dramadol, comme le symptôme de quelque chose de notre époque, avec une question: pourquoi est-ce si douloureux de vivre dans nos sociétés contemporaines? Mais au fil des pages, quelque chose d'autre se dessine. L'image d'une génération, non pas qui souffrirait plus qu'avant, mais qui précisément refuse de souffrir alors que les choses pourraient être autrement.
Mais alors pourquoi Rose Vidal écrit « Ma génération ne souffre plus » ?
Oui, et c'est là tout le paradoxe. Il faut entendre souffrir dans le sens d'accepter, de consentir à. Ma génération n'accepte plus de souffrir. On dit de notre génération qu'on est de gros fragiles. Rose Vidal dit « Ma génération a appris à recracher le poison ». Et puis son amertume, à fermer la bouche et à refuser de gober. Parce qu'on a décidé que la souffrance qu'on se transmet de génération en génération, les dominations systémiques qui la produisent, ça n'allait pas de soi, qu'on ne veut plus endurer sous prétexte qu'on n'aurait pas le choix. Elle dit « Génération de petits cons qui ressent la joie qui n'est pas la sienne et éprouve la douleur de voir d'autres souffrir. » Qu'est-ce que la douleur de l'autre nous fait? Car la douleur, on s'en protège. C'est une injustice à porter qui ne m'appartient pas. On sait le caractère effractant de la plainte. Si on prend l'exemple d'un parent dont l'enfant souffre le plus souvent, la douleur de son enfant l'atteint, le fait souffrir à son tour. Mais la douleur devient inassumable quand il n'a pas les moyens de la soulager. En politique, plus la douleur est loin, moins c'est un souci, plus tu t'en fous. L'apathie généralisée. Comme une source de chaleur, la douleur, tu la perçois de mieux en mieux à mesure que tu t'en approches. Qu'est-ce qui se passe alors lorsque la personne souffre et que je la reconnais dans sa douleur ? Rose Vidal dit aussi « J'ai le corps des histoires qui ne sont pas les miennes, et c'est devenu la chair, le sang et la vie de toute mon écriture. » Apparaît alors le pouvoir de se raconter, de raconter les histoires qui nous constituent, y mettre les formes, mais aussi un peu de corps, prendre soin des mots que l'on emploie pour prendre soin de la souffrance de l'autre, la reconnaître. Comme celle de son ami Emmanuel qui lui confie la mort d'un de ses enfants jumeaux à la naissance dont elle ne s'est jamais remise, puis celle de son frère. La souffrance à présent la constitue, elle ne peut plus faire sans. Mais aussi l'histoire de son ami amant toxicomane, la mort du père de son cousin, les chagrins d'amour, des drames intimes, mais rien d'extraordinaire pourtant. C'est là où le roman et la douleur se rejoignent, dans la nécessité d'écrire, rendre plus ample, moins étouffante cette souffrance. L'art, parce que Rose Vidal a d'abord été critique d'art avant d'écrire son premier roman, et ici la littérature a peut-être une fonction curative ou palliative, qui permet parfois d'adoucir la souffrance en cherchant les mots justes, adéquats pour la dire, la reconnaître dans sa singularité, en posant des questions aussi pour l'accueillir, en trouvant des formes pour tenter de partager cette douleur. Alors quelle possible, quelle ouverture la douleur permet-elle dans le monde ? Plus qu'un roman sans histoire, c'est le récit d'un grand nombre d'histoires. Rose Vidal écrit « Je comprends maintenant qu'il faut la douleur, pour veiller le corps, et le corps en veille pour regarder le monde. Je comprends ainsi que la douleur veille sur le monde. »
Un récit qui questionne nos manières d'aimer et nos dépendances, nos douleurs et les solutions qu'on tente de trouver. Un sujet profond, merci Garance. Allez, passons aux réactions. La question de la douleur, le fait que notre génération s'en empare, on en pense quoi, Safia ?
Alors déjà, je ne connaissais pas cette autrice, mais visiblement, c'est son premier roman. Donc voilà. Sur la douleur...
Est-ce que pour toi, tu penses que notre génération s'empare de ces sujets et peut-être en fait quelque chose de différent que les générations précédentes ?
Oui, totalement. On a tendance à travailler sur nos douleurs, à en parler, à les exprimer, à vouloir éventuellement les traiter. Et ça, j'ai l'impression que c'est quand même assez nouveau.
Jeanne, qu'est-ce qui t'inspire ce sujet ?
La chronique de Garance me fait penser au fait que quand tu disais la douleur se ressent, ne peut pas se partager, on peut demander à quelqu'un à quel point il a mal, mais on ne peut pas le sentir. Et je me suis dit, si ça avait été le cas, si c'était possible, je pense que dans l'histoire de la médecine, si on avait pu faire sentir la douleur, par exemple, des règles, aux hommes, peut-être qu'il n'y aurait plus jamais
testé
de...
ça, ouais, mais approximé
c'est...
du moins.
Tu vois, s'il y a une espèce de chose comme ça, où je pense que c'est notre génération aujourd'hui qui commence à se dire ce n'est pas normal d'avoir si mal et d'essayer de traiter cette question et pas juste se dire c'est ma condition de femme, je suis destinée à souffrir toute ma vie. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'émergent ce genre de, des maladies comme l'endométriose qui sont... dont on entend parler depuis très récemment, quoi. Peut-être parce que justement on commence à considérer la douleur comme quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la condition et de c'est comme ça, c'est inchangeable.
L'ouverture de la parole sur la douleur, c'est aussi très lié avec le sujet du paraître, du bien paraître, et on vient casser ces vitres-là. Diane, qu'est-ce que ça t'inspire tout ça ?
Ça me faisait penser, je parlais avec ma psy, je lui disais, des fois j'ai l'impression que la libération de la parole, elle se fait, mais elle se fait depuis longtemps, mais que l'écoute de la parole, elle se fait plus avec plus de distance. Et par exemple, tu vois, on parlait des douleurs de règles, etc. Il y a, je sais pas, un an, un truc comme ça, il y a une vidéo qui a tourné sur la proposition de loi pour la mise en place d'un congé menstruel. Et c'est des députés du coup qui avaient une simulation de douleur de règles, et genre tout le monde a découvert que quand une personne qui a l'endométriose souffre quand elle a ses règles, et il y a plein de gens qui sont en mode bah ouais, ça fait des années en fait qu'on le dit, donc il y a aussi un double discours sur la libération de la parole, c'est super, etc., mais il faut aussi qu'elle soit entendue derrière et qu'elle soit pas juste propagée au grand public, quoi.
Ryan, je te vois réagir.
Non, mais oui, je trouve que finalement, c'est un peu dangereux de considérer qu'avoir mal, c'est normal. Et le fait qu'on ait mis autant de temps à se rendre compte que c'est pas normal de souffrir autant quand on a ses règles, et qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'endométriose et que peut-être on peut le reconnaître comme une maladie, agir dessus, c'est assez frappant parce que ça fait vraiment que quelques années. J'ai vu ces vidéos où on fait tester avec un appareil les douleurs des règles à un homme, et bah oui, on se rend compte que ça fait super mal. Moi, je ne le sais pas, mais ouais, c'est assez fou de se dire que tant qu'on le ressent pas, on peut pas vraiment comprendre. Ça me fait aussi penser à cette mère de famille qui avait appelé au téléphone les secours parce qu'elle souffrait, et que la femme au téléphone ne l'avait pas cru et qu'elle est morte. Et en fait, on se rend compte que communiquer sur sa douleur, c'est un peu compliqué et parfois on n'est pas cru.
Alors, ce qui est intéressant dans le livre de Rose Vidal, c'est qu'elle a une approche complète puisqu'elle va voir un psychanalyste. Elle interroge quelqu'un, non?
C'est un neurologue.
Ah voilà, et donc du coup, c'est aussi bien de voir que ces écrits-là, ils viennent chercher la parole de plusieurs personnes et que du coup, ils proposent un regard complet sur un sujet qui est aussi compliqué. Merci à vous pour vos réponses. Pour rappel, on vient de parler de Dramadol, de Rose Vidal. Le roman est disponible dans toutes les librairies. Allez le chercher.
Art visuel, art médiatique, art de la scène. C'est dans l'art sur Radio Campus Paris.
Merci d'avoir écouté cette première partie de C'est dans l'art. Pour les curieux et curieux, nous continuons de découvrir de nouvelles œuvres et personnalités. Place aux arts de la scène, à l'architecture et à la musique. À tout de suite.
Retrouvez C'est dans l'art, le magazine d'actualité culturelle sur radiocampusparis.org et sur toutes les plateformes de musique à la demande.